Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La crainte ce matin que la mobilisation contre les retraites dégénère après le 49-3 et les mots d'Emmanuel Macron. Autorités et syndicats redoutent des violences. Vous entendrez le témoignage RMC d'un CRS. Les forces de l'ordre interviennent déjà ce matin pour déloger des manifestants à Pantin, près de Paris, à Marseille aussi, à la gare. RMC est sur place. Et puis dans ce contexte, Emmanuel Macron ne dînera peut-être pas avec le roi Charles III au château de Versailles lundi soir. Le dîner fastueux se fera certainement ailleurs.
Et puis à suivre aussi, qu'avez-vous pensé, vous, de l'intervention d'Emmanuel Macron hier? On en débat tous ensemble juste après ce journal. Je vous attends au 32-16. Mais on commence tout de suite avec cette crainte que le mouvement se radicalise.
Oui, on aura la réponse dès ce matin avec les premières manifestations. 10h à Nice, Toulon et Avignon. 10h30 à Marseille, Montpellier et Nantes. Un peu plus tard, 14h à Paris entre Bastille et Opéra cette fois. Au lendemain donc de l'interview d'Emmanuel Macron que opposition et syndicats ont trouvé méprisant. Il y aura Romain Houck pour RMC, un dispositif de sécurité complètement inédit dans la rue.
Oui, 12 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire, dont 5 000 rien qu'à Paris. C'est tout simplement un nombre jamais atteint depuis le début de la mobilisation. Si un tel dispositif est mis en place, c'est d'abord parce que la mobilisation va monter d'un cran. Les autorités attendent jusqu'à 800 000 personnes dans les rues à travers le pays. C'est plus que la semaine dernière. Et surtout, ce que craint l'intérieur, c'est une radicalisation du mouvement. Et en particulier des jeunes que l'on voit manifester tous les soirs dans les grandes villes depuis une semaine. Par ailleurs, entre 400 et 1200 éléments radicaux pourraient également nourrir le cortège parisien cet après-midi entre Bastille et Opéra.
Et ces violences, les syndicats aussi les redoutent.
Oui, selon des informations de RMC, la CFDT va élargir son service d'ordre. Ils font appel à plus de militants pour assurer la sécurité du cortège. Mais ce que disent aussi en off des représentants syndicaux, c'est qu'ils craignent que leurs propres militants aillent à l'affrontement. Les gars nous disent qu'ils en ont marre du blabla. Les images de violences policières tournent beaucoup, constate un cheminot. On est encore plus vigilant que d'habitude, confirme le numéro 1 d'une confédération.
Cela fait une semaine qu'il y a des tensions dans les grandes villes. On vous en parle tous les jours sur RMC. La soirée était moins tendue que les derniers jours. Hier soir quand même à Paris, Lyon et Marseille. Mais ça fait une semaine donc il y a ces violences. Et ça commence à faire long. C'est un CRS qui le dit ce matin sur RMC. Écoutez le témoignage de Jesse. Brigadier chef CRS donc à Paris. Il reconnaît que ses troupes commencent à être usées.
La fatigue se fait ressentir, hein, parce que bon, quand vous dormez plus que 4-5 heures par jour et que vous faites des amplitudes de travail qui varient de 17 à 20 heures, ça joue quand même sur la condition physique. Là, depuis l'annonce du 49-3, on est monté crescendo dans la violence. Dans les rangs, ça tient bon pour le moment. Maintenant, il va falloir que le moral tienne, parce que bon, on est la dernière barricade. Donc si demain, on revenait à céder, là, on tomberait dans une anarchie totale, quoi.
Et alors, il y a un symbole. On l'apprend ce matin. Sébastien Krebs du service politique à RMC signe que le climat aussi se tend. Emmanuel Macron devait recevoir et dîner même avec le roi Charles III lundi prochain au château de Versailles. Mais compte tenu du contexte, compte tenu du symbole, les plans vont sûrement changer.
Oui, Emmanuel Macron doit accueillir le souverain et la reine consort dans la galerie des glaces après un concert dans la chapelle royale. C'est un fastueux banquet qui était promis au monarque. Porcelaine de Limoges et table de 50 mètres sous les dorures de Versailles. Vous voyez le symbole et l'image potentiellement dévastatrice de ce cadre très monarchique alors que les Français manifestent. D'ailleurs, les oppositions s'en saisissaient déjà. Selon les indiscrétions d'RMC, les insoumis ont même l'idée de manifester en portant la cocarde tricolore de 1789. D'où la remise à plat du programme. Selon nos confrères de BFM TV, les autorités envisagent de déplacer ce dîner qui pourrait avoir lieu plus classiquement à l'Élysée, histoire de jouer un peu plus la sobriété. D'autant que les Britanniques eux-mêmes commencent à s'inquiéter des conditions de sécurité autour de cette visite d'État qui doit durer 3 jours. Le Daily Mail révélait hier que Buckingham est en contact avec la France pour adapter la logistique. Charles III doit aller à l'Arc de Triomphe, au musée d'Orsay, au Sénat. Il doit même prendre un train pour Bordeaux et parcourir la ville en tram. On voit bien que tout cela risque d'être perturbé par les mobilisations. Et on voit aussi l'ampleur du dispositif policier qu'il va falloir mobiliser pendant ces 3 jours.
Et ce matin, les forces de l'ordre interviennent déjà pour déloger les manifestants, les premiers à se mobiliser en cette 9e journée d'action intersyndicale. À Pantin, tiens, par exemple, près de Paris, les manifestants repoussés alors qu'ils cherchaient à envahir une nationale, la nationale 2, ait bloqué un dépôt de bus. Pareil à Marseille, où des opposants à la réforme qui bloquaient la sortie des cars de la gare Saint-Charles ont été évacués. Un des manifestants, Émile, nous raconte ce qui s'est passé. Écoutez.
On était devant la gare routière, mais ça n'a pas plu à la maréchaussée, visiblement, qui nous a un peu refoulé. Donc, du coup, on chemine librement. On est de passage, on va soutenir des piquets de grève de ci, de là, dans Marseille. Voilà. Il y a du mouvement un peu de partout, donc nous aussi, on circule. Là, c'est la foule en liberté, justement, pour répondre à M. Macron. Là, la réforme des retraites, le 49-3, l'autoritarisme, les violences policières. On n'en veut pas et on regagne notre liberté, on déambule, voilà.
Et cette tension, on la ressentait déjà dès hier soir à la raffinerie de Gonfreville, où des manifestants se sont précipités sur le site pour un rassemblement spontané dès l'annonce de la réquisition de grévistes, comme ça avait été le cas en début de semaine à Fos-sur-Mer. Des réquisitions d'ailleurs qui n'ont pas encore d'effet à la pompe, avec plus d'une station sur deux toujours sous tension en moyenne dans le sud de la France, notamment à Marseille et dans la région, où il y a des bouchons énormes devant les stations, les rares stations à être ravitaillées. C'est ce que nous dit Mathieu Limongi sur place pour RMC.
Ici, il y a autant de voitures qu'il y a de soupirs et de visages fatigués. Plus d'une heure d'attente, des centaines de mètres de file dans une atmosphère souvent tendue.
Vous imaginez, il y en a même des gens qui viennent, ils vous doublent sur le côté, on peut rien dire.
Alors, après avoir fait le plein, Hamid s'assoit pour souffler. Quelques minutes, pause café, bien méritée pour un travailleur très remonté.
Il y a beaucoup de tension. Ben là, il y a à peine un quart d'heure, dans cette même station, où une dame commençait à s'engueuler avec un monsieur parce que le monsieur mettait entre 2 et 3 bidons de gazole, alors que c'est interdit, quoi. Faut au moins penser aux autres. On est tous dans le même bateau.
Certains affirment même avoir vu pire.
Des bagarres, hein ? Bagarre pompe à essence, on n'en peut plus.
Face à la situation, à la pompe, c'est donc l'usure pour beaucoup. Ryan vit ça tous les jours.
Ça commence à être saoulant, en fait. Là, moi, je fais beaucoup de kilomètres avec cette voiture. J'ai besoin des stations essence. Si ça continue, si ça commence à être très souvent comme ça, ça risque d'être compliqué.
Heureusement, certains préfèrent prendre la situation avec le sourire et un peu d'ironie. La
prochaine fois, je pense que je vais passer à l'électrique.
Dans le département, il faudra compter au moins une semaine avant un retour à la normale.
RMC à vos côtés en cette nouvelle journée spéciale qui commence. Galère qui est plus marquée que la dernière fois d'ailleurs dans les transports. Un TGV sur deux, un tiers des TER est certainement la conséquence. Il y a moins de métro, de RER ce matin, au mieux un sur deux en région parisienne. Conséquence, il y a de gros bouchons. On est à plus de 320 km de bouchons cumulés partout autour de Paris. Dernier chiffre qui nous est communiqué, c'est un niveau qui est considéré comme exceptionnel. À 8h07 sur RMC, je vous signale qu'une enquête est ouverte à Saint-Brévin. Saint-Brévin, c'est près de Saint-Nazaire. Après l'incendie hier matin chez le maire de la ville, la piste criminelle sérieusement évoquée. Pourquoi ? Parce que l'élu fait l'objet de menaces habituelles pour son soutien à l'accueil d'un centre de migrants. Et puis cette image sympa aussi, tiens, qui fait du bien dans l'actualité du moment. Les deux frères Thuram qui se sont confiés devant la presse, c'était hier au château de Clairefontaine où sont rassemblés les Bleus de l'équipe de France depuis lundi. Marcus Thuram, le grand frère, et Lilian Thuram, Kefren Thuram, pardon, le petit frère, le bisou.
C'est le papa.
Ouais,
voilà,
c'est le papa.
Tous les deux, Marcus et Kefren, tous les deux les fils de Lilian, le papa. Racontez-nous comment ça s'est passé, Timothée Mémon pour RMC.
Présentés ensemble en conférence de presse, les deux garçons, souvent hilares, ont évoqué leur soutien, mais aussi leur concurrence avec beaucoup de tendresse. Marcus Thuram.
Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père, ou moi et Kefren. Enfin, peut-être que lui, il a une petite concurrence avec moi, vu que c'est le plus petit, mais ça reste toujours dans l'amour et dans la bonne humeur.
Son petit frère, Kefren, plus timide et souvent admiratif.
Tout comme Marcus.
Pour autant, chacun assume sa vie, sa carrière propre et son indépendance vis-à-vis du frère et du père, comme l'explique Marcus Thuram.
Vous savez, on a toutes les deux des carrières différentes. Kefren prendra ses décisions concernant sa carrière et moi je prendrai mes décisions.
Rassuré par la présence de son aîné, Kefren confessait son soulagement de sentir son frère près de lui.
Moi je suis très très fier d'être le frère de Marcus et de voir ce qu'il accomplit tous les jours.
C'est parfait parce qu'il répond très bien, donc quand je sais pas quoi répondre, je laisse répondre. C'est bien comme ça.
Kefren, fils et frère, pourra donc compter sur son aîné pour une intégration rapide et réussie.
Et les Bleus qui joueront demain soir au Stade de France contre les Pays-Bas, match de qualification à l'Euro 2024.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 sur RMC.